rencontre de la Chartreuse, avec donc deux rendez-vous, les rencontres étrangères, avec Daniel Girard donc à ma droite et Laurent Mulhaizen, et puis une pièce de Jean-Marie Piem, Les forts, les faibles, mise en scène par Philippe Morand. On va peut-être commencer par vous, Philippe Morand.
Si vous voulez.
Priorité et honneur au spectacle. J'ai lu que Les forts, les faibles étaient un peu toujours à la manière de Jean Piem, une critique de la montée du fascisme ordinaire. Est-ce que c'est une pièce de circonstance ?
J'ai bien peur que oui. Oui, Piem a écrit cette pièce en 95. C'est une pièce qu'il m'avait envoyée tout de suite, donc je suis suisse, je suis comédien, metteur en scène, j'ai été auteur à la Chartreuse en résidence. Et puis, je dirige le théâtre de poche à Genève depuis maintenant six ans, et pour une année encore. Et j'avais tout de suite envie de faire cette pièce. Pourquoi ? Parce que d'abord, je connais très bien l'écriture de Jean-Marie Piem et que je pense que c'est vraiment un des auteurs en Belgique. Il faut quand même dire qu'il est belge. Un des auteurs, à mon avis, très importants dans les écritures contemporaines d'aujourd'hui. Et c'est une manière d'écrire qui me plaît beaucoup, par séquences, des séquences courtes. Et là, il s'attaquait, c'était pas la première fois d'ailleurs, il travaille souvent en trilogie, il s'attaquait à la question de la montée des idées d'extrême droite pour chacun de nous. C'est donc un sujet délicat. Et puis l'histoire, depuis 95 jusqu'à avant-hier, et sans doute encore demain, nous montre bien qu'il touche quelque chose dans notre société de grave, d'important et d'inquiétant certainement. Alors, ce qui est très intéressant dans son écriture, dans Les forts, les faibles, c'est que ça n'est absolument pas une pièce manichéenne. Il ne cherche pas à démonter des mécaniques au niveau du pouvoir, au niveau des grandes idéologies, mais il nous interroge tous, personnellement, individuellement, sur nos contradictions. Et il met un petit peuple, ce sont 9 acteurs, tous des acteurs suisses, qui vont prendre en charge chacun ce que j'appellerais non pas des personnages, mais des figures. Parce que l'écriture de Piem, c'est une écriture très élaborée, extrêmement précise, et c'est le langage qui constitue ces figures plutôt que ces personnages. Et on va avoir 9 personnages, on pourrait dire, en équilibre au-dessus du vide, le vide de leur vie, leur vide de leur quotidien, leur désespérance, deux jeunes qui sont la figure emblématique de la jeunesse d'aujourd'hui, une jeunesse intelligente, désireuse, révoltée, à juste titre, et qui essaie de prendre sa place dans la société, et la société n'a rien à leur proposer. Et à travers ces deux personnages, un homme, une femme, ils ont 25 ans, on va les voir s'engager pour essayer de trouver leur place dans la société sur des voies extrêmement dangereuses, qui vont les amener l'une vers un cafetier qui se présente sur une liste d'extrême droite et qui va la prendre comme on prend une fille de la rue et qui va en abuser tout simplement et elle va être encore plus cassée qu'elle ne l'était au début de la pièce. On voit un jeune homme qui lui essaie par l'écriture, par la parole, par le verbe de trouver une sorte d'existence mayakovskienne et qui lui va se faire embarquer par un procureur complètement ripou, auteur d'attentats, tout ça se révélera en cours de route. Donc tous ces personnages, y compris un journaliste qui en sait beaucoup sur les attentats, on parle là de choses très précises pour la Belgique, c'était les attentats du Brabant wallon, mais évidemment Piem a la sagesse de ne pas rattacher ça à la réalité belge, mais au contraire de la rattacher à ce qui pourrait être une série de réseaux emblématiques qui traversent toute l'Europe en tout cas. On va pas dire plus loin.
Quel est le lien entre tous ces personnages ? C'est seulement la langue avec justement ces petites lâchetés, ces petites faiblesses de la langue qui font qu'on peut glisser ?
C'est la force de la langue et ce sont les faiblesses humaines, je dirais. Et tout ça provoque des rencontres comme on en a tous les jours, chacun, chacune. Et on va croiser des gens et tout à coup, suivant la nature de la rencontre, on va tenir nous-mêmes ou avoir des raisonnements ou tenir des discours qui sont extrêmement dangereux à cause de la situation et à cause d'une attitude politique globale. Mais ce sont de courtes séquences et ces personnages se rencontrent et se tissent à l'intérieur de ça une trame humaine, bien évidemment une histoire quand même extrêmement compréhensible. Je dirais la fable est très simple, Et elle va essayer de nous interroger. On a joué maintenant 70 fois déjà le spectacle. On l'a joué à Genève, mais on est allé aussi à Charleroi, on est allé à Vidy, etc. On a quand même un assez beau voyage déjà derrière nous. Et on s'aperçoit que chaque spectateur, et même, je dirais, chaque pays, puisqu'on a eu la chance de le jouer jusqu'à maintenant en Belgique et en Suisse, réagit avec son espèce de magasin de dangerosité d'extrême droite. Et ce sont ces questions-là, c'est très simple, mais c'est en même temps très fort parce que ça nous ressemble étonnamment.
Alors vous parlez de fable, est-ce qu'il y a une morale ?
Non, alors Piem, c'est pour ça que la pièce n'est pas manichéenne, ne fait la morale à personne, n'essaie pas de démonter des mécanismes politiques compliqués, sophistiqués que nous n'aurions pas compris. Il essaie de nous dire au quotidien, là dans notre réalité, est-ce qu'on n'a pas, nous aussi, à certains moments, des comportements d'une contradiction épouvantable et qui, d'une certaine manière, font le terreau des idées de l'extrême droite, des idées populistes d'une certaine extrême droite? Et est-ce qu'on n'est pas, nous-mêmes, tous responsables fondamentalement de ces grands mouvements inquiétants?
Dans la mise en scène, est-ce que vous faites des références, des clins d'œil à une actualité particulière ou le texte suffit en soi?
Non, pour moi, mettre en scène des auteurs d'aujourd'hui, c'est parce qu'on les a jugés bons, intéressants, et donc le service de la mise en scène, c'est d'essayer de travailler dans ce qu'on peut comprendre, dans ce qu'on peut renforcer, éclairer, dans l'idée d'un auteur. Donc il n'y a aucune allusion à aucun événement politique récent en France ou en Suisse. À l'époque de l'écriture, il y avait des liens, je l'ai dit, avec une certaine actualité belge, où les Belges se sont très fortement reconnus. Mais ça a l'avantage que cette pièce est parfaitement universelle, je dirais. Elle ne concerne pas un pays en particulier, une couche sociale en particulier, pas plus non plus qu'une attitude politique qui serait d'un certain gouvernement plutôt que d'un autre.
Les forts, les faibles. Quelques questions? Non. Donc première le 22.
Oui, lundi demain, soir, 22h à la Chartreuse, jusqu'à samedi 22h aussi, tous les soirs.
Sur un air de jazz.
Alors oui.
Et pas de tango là cette
fois-ci. Non, il n'y a pas de tango parce que Piem a mis un personnage, un vieil homme, un ancien résistant qui a été torturé par les nazis et qui est resté un peu croché à cette douloureuse aventure. Et il est à cette dans son histoire privée, c'est ça. Et puis dans son histoire artistique, c'est un fou de Charlie Parker. Et donc il essaie, ce vieil homme, de jouer comme Charlie Parker. Il sait bien qu'il n'y arrivera jamais. Et donc toute la pièce, en tout cas c'était mon choix, est, je dirais, ponctuée, colorée dans la structure des séquences autour du grand répertoire jazz.
Merci Philippe Morand. Chartreuse actualité fournie. démarre aussi le 23 les lectures étrangères. Daniel Girard, Laurent Mulhaizen. Je crois que ce sont des textes que vous découvrez totalement, Daniel Girard, grâce à Laurent Mulhaizen.
De toute façon, je découvre toujours les textes grâce à quelqu'un. Et en fait, c'est vrai que nous ne cherchons pas à trouver l'auteur du siècle en ce qui concerne le travail de la Chartreuse. Nous travaillons avec beaucoup d'auteurs qui deviendront peut-être un jour les auteurs du siècle. Mais c'est pas notre ambition ou notre volonté. On a un autre travail à faire avec les auteurs contemporains, c'est celui-là que nous faisons. Et donc, pour illustrer donc ce propos, nous avons décidé il y a 2 ans de nous tourner vers la traduction du théâtre contemporain français. Et donc nous y travaillons actuellement beaucoup. C'est-à-dire que nous établissons dans tous les pays du monde, d'ailleurs, des relais de la Chartreuse et des relais pour traduire ce théâtre français contemporain, pour le faire découvrir à d'autres. Ça, c'est notre travail. Et en même temps, nous ne travaillons pas dans l'impérialisme français, on travaille avec la Maison Antoine Vitez, qui fait, j'allais dire, le contraire de ce que nous proposons, c'est-à-dire de traduire le théâtre contemporain étranger en langue française. Donc c'est un mariage de raison, c'est un paxage de raison, mais nous l'avons établi et c'est ce que nous allons démontrer pendant ces rencontres d'été de cette année, c'est-à-dire on a prévu un moment des rencontres qui s'appellent donc Rencontres étrangères et qui vont être, j'allais dire, soutenues et animées par un certain nombre d'organismes aussi qui s'occupent de ça. C'est-à-dire, il y a la SACD, il y a Théâtral, il y a l'ONDA, il y a le Centre National du Livre, enfin, etc., etc. Mais il y a surtout, bien sûr, la Maison Antoine Vitez, qui est quand même la base et la cheville ouvrière. Voilà. Et donc, Laurent Mulhaison, qui est le directeur de la Maison Antoine Vitez, vous parlera de ces lectures un peu mieux que moi.
Donc, Laurent Mulhaison, comment s'est fait le choix de cette dizaine de textes que vous avez proposés en lecture à la Chartreuse, sachant que j'imagine que vous en recevez beaucoup plus.
Oui. D'abord, l'esprit... Pour compléter un peu ce que disait Daniel, bon, c'est un peu compliqué de parler après Julia Miguenès parce que c'est pas sympa.
Un verre d'eau peut-être.
C'est moins glamour. non, ça va. Voilà. Non, c'est que ces rencontres-là partent de l'idée. Alors, la Maison Antoine Vitez, depuis 10 ans, s'occupe de l'importation de textes étrangers en français pour faire découvrir le répertoire contemporain étranger en français. Et dans le travail d'un certain nombre d'institutions comme la Chartreuse ou Théâtral et d'autres, ou la SACD, c'est de faire connaître les auteurs français à l'étranger. Or, on s'est rendu compte quand même que très naturellement et très vite, c'était des activités complémentaires. On ne défend pas mieux le théâtre français à l'étranger qu'en organisant les possibilités de la réciproque. Ça, si ça se passe en termes... Daniel parlait tout à l'heure d'impérialisme. Effectivement, si on prend le parti de l'impérialisme en disant « Ah, c'est vraiment bien les textes français, on va montrer aux gens à l'étranger comme on écrit bien », les gens à l'étranger sont pas forcément dans des attentes, enfin, ils nous attendent pas forcément. C'est en termes de dialogue que les choses se passent. Si on a quelque chose à donner, il faut avoir aussi quelque chose à recevoir. Et c'est cette synthèse-là qu'on voulait mettre en place, en pensant qu'on ne défendrait jamais mieux le théâtre français contemporain qu'en défendant le théâtre étranger traduit en français. Alors, pour répondre plus précisément à votre question, le choix des textes, c'est comme la Maison Antoine Vitez, on est un petit peu une sorte de carrefour entre l'étranger et le français et l'étranger. C'est-à-dire que l'activité même qu'on fait d'être une sorte de plaque tournante fait qu'on est en contact avec de nombreux partenaires à l'étranger. Alors quand on se promène dans les festivals, on rencontre des gens, on noue des contacts, et les réseaux qui se créent, qui sont des réseaux tout à fait informels, mais c'est justement pour ça qu'ils sont souples et qu'on peut travailler vraiment sur ce qu'on aime et pas sur des programmes qu'on nous impose. Ces occasions, enfin ces rencontres-là, nous ont fait mettre en place une sorte de partenariat entre 4 pays. Et on s'est dit, on va mettre en place un partenariat entre 4 pays européens qui sera entièrement basé sur le travail des traducteurs. On va en prendre des textes et on va organiser le travail de traduction autour de ça. Ces 4 pays, c'était la Finlande, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France. Et dans ces pays, un traducteur a choisi 2 pièces de sa propre langue pour les proposer aux autres pays. Le programme, qui est un programme soutenu par Culture 2000, par le Parlement européen, prévoit que ces textes choisis dans chacune des langues soient traduits dans les 3 autres langues. Et que des cycles de lecture soient organisés. D'abord des ateliers de traduction, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé, moi par exemple, avec les 2 textes français que j'avais choisis, qui étaient un texte de Denise Bonal et un texte de Rémi DeVos, en atelier de traduction avec les 3 traducteurs des autres langues. Et avec les auteurs, faire se rencontrer l'auteur et ses traducteurs. Les auteurs au début disaient, mais qu'est-ce qu'on va avoir à dire, on parle pas du tout ces langues-là, on parle pas le finlandais, on parle pas le finnois, on parle pas l'allemand, on parle pas l'anglais, mais... qu'est-ce qu'on va avoir à raconter? Et Denise Bonal est venue comme ça en disant « Oh, je vais rester un jour ou deux, je vais pas vous embêter parce que vraiment... » Et à la fin, elle voulait plus partir parce que la traduction vers la langue étrangère interrogeait sa propre écriture. tout à coup, la traductrice finlandaise lui disait, oui, mais par exemple, en finnois, je ne peux pas utiliser de pronoms personnels en marquant le genre, féminin ou masculin. Et ça ouvrait des abîmes de réflexion, de perplexité à Denise, qui du coup disait, oh, mais alors c'est extraordinaire ce que j'ai écrit là, vous ne pouvez pas le dire, il faut que vous inventiez quelque chose. Mais... Et c'est ce dialogue-là qui est vraiment au service du texte, au service de la transmission et du passage du texte d'une langue à l'autre. Donc ces ateliers ont eu lieu, et maintenant on est à la phase des lectures, c'est-à-dire on va présenter tous ces textes en lecture française la semaine prochaine, du 23 pour un texte qui est un peu à part, mais du 24 au 27 pour ce programme-là, des quatre pays européens, pour donner ça à entendre, mais en présence des auteurs, en présence des traducteurs, pour qu'il puisse y avoir un dialogue après entre les différents acteurs de cette transmission.
Et ces lectures sont aussi organisées en Allemagne, en Grande-Bretagne, voilà. En Finlande, ou c'est le petit plus
non, c'est organisé
proposé
partout.
Par la Chartreuse
La Chartreuse a eu la grande bonté d'accueillir le cycle complet. Parce que dans chaque pays, les gens se débrouillent avec les institutions qu'ils ont et les possibilités qu'ils ont de faire entendre ces textes. Mais les Finlandais ont fait entendre les 8 textes déjà aussi dans leur langue, ils en ont même édité déjà. En Angleterre, c'est plus compliqué parce que le fonctionnement du théâtre anglais est un fonctionnement qui est plus basé sur les sponsors, sur le secteur privé, alors il faut négocier, c'est pas du service public. L'issue de ces lectures, enfin c'est un programme européen sur 3 ans, ça prévoit ensuite la publication des textes dans chacune des langues, un matériel sur les ateliers de traduction, les lectures, les questions que ça a soulevées, et une production. C'est-à-dire par exemple en France, une des 6 pièces étrangères, les 2 finlandaises et 2 anglaises, évidemment, va être produite en français, montée, et invité dans le pays d'origine, pour qu'on puisse aussi comparer l'approche de la mise en scène. C'est-à-dire que les Allemands vont pouvoir voir, ou les Anglais, ou les Finlandais, comment un metteur en scène français aborde une problématique, une écriture, dans sa traduction étrangère. C'est ça aussi qui est intéressant. Et je crois que c'est en mettant en place des rencontres et des échanges, basés sur des échanges, sur des possibilités de comparer, de dire voilà comment nous on voit ce que vous faites, voilà comment vous voyez ce que nous faites, qu'on peut arriver à faire avancer le théâtre en Europe.
Alors je vais peut-être un petit peu pinailler, mais pourquoi le choix de ces 4 pays-là, c'est un effet du hasard? Est-ce que c'est la marque d'une suprématie nord-européenne du théâtre
non, contemporain? Non, c'est tout simplement parce que c'est la première édition de ce programme européen et que c'était les 4 pays qui étaient opérationnels, c'est-à-dire où les traducteurs étaient là, où il y avait des théâtres prêts à suivre. La seconde édition va être ouverte vraisemblablement à la Lituanie, à la Hongrie, à la Roumanie. Non, c'était pas une suprématie nord et nord-ouest, c'était simplement parce que sinon on le commençait pas. Voilà. À un moment donné, il fallait se décider et ces 4 pays étaient prêts.
Damien Girard, vous vouliez rajouter quelque chose là-dessus?
Non, il a totalement tort. il dit n'importe quoi et je peux pas m'empêcher.
Comme toujours d'ailleurs.
C'est vrai. Qu'en Europe, il y a une suprématie du Nord, c'est évident, et que au niveau du Parlement européen et de toutes les choses qui se passent à Bruxelles, ce sont les Anglais, les Allemands et les gens du Nord qui sont là, qui sont extrêmement opérationnels, qui utilisent toutes les propositions faites par cette Europe qui est en train de naître, en tout cas au niveau culturel, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas encore grand-chose de fait. Et donc, on sait qu'il y a des gens qui savent se servir de ces institutions. Nous, on s'en sert très peu à la Chartreuse. Je me considère vraiment comme quelqu'un du Sud. C'est-à-dire que si Laurent n'avait pas amené ce projet-là, jamais on serait rentré dedans, puisque nous, imperturbablement, on mène notre projet Terre, traduire, éditer, représenter, et en particulier sur les pays du Sud. Et donc, on a tous les gens du Sud ont d'énormes problèmes avec l'Europe parce que l'Europe est très administrative. Il faut faire des dossiers absolument hallucinants pour toucher 3 francs 6 sous. Et donc, finalement, l'Europe n'est là que pour donner des petites impulsions pour que les gens puissent faire quelque chose ensemble. Et donc, ça, c'est bien. C'est évidemment quelque chose de positif. Mais pour le moment, arrive sur la ligne de départ absolument pas les gens du Sud, mais certainement les gens du Nord. Et donc, il y a aussi une volonté de l'Europe de se tourner vers les pays de l'Est, hein, c'est-à-dire, Laurent vient d'annoncer qu'on aura la Slovénie, la Bulgarie, la Hongrie, la Roumanie, etc. Mais l'Europe du Sud, l'Europe tournée vers le Sud, n'est pas faite. Elle est à faire, et elle est très difficile à faire, parce que les gens du Sud n'ont pas les réactions des gens du Nord, ils ne rentrent pas dans ce genre de propositions. Et donc, c'est un vrai problème. On a essayé de monter à la Chartreuse un réseau culturel méditerranéen qui ferait que la Chartreuse pourrait trouver des interlocuteurs. Ben, pour le moment, on n'y est pas arrivé. Mais on va y arriver. Mais c'est un peu difficile. Donc, ce que je voulais dire, c'est que quand même, l'Europe aurait besoin de se dire que l'Europe du Sud, ça existe aussi.
Un petit effort, la maison Antoine Vitesse.
Mais je vais vous envoyer notre catalogue, Pascal, vous allez voir le nombre d'auteurs du Sud qu'on traduit. Bien sûr, je suis d'accord avec ce que dit Daniel. Mais ce que je voulais dire, c'est pas que les pays du Nord n'étaient pas des pays de suprématie, je veux dire, mais c'est ce que tu disais, c'est que ben, ils sont prêts, ils sont organisés. Donc voilà, à un moment donné, l'Europe disait, ben, si vous commencez à cette date-là, vous aurez l'argent. Et voilà, et ça commence là et ça s'arrête là. Mais en faisant cette première édition, on travaillait au contact qu'on pouvait établir avec les autres pays. Donc on se sert en fait de l'organisation et de ce tremplin nord et nord-ouest et pour l'élargir.
Y a-t-il des questions ? Non.
Il y a tout le Sud dans nos. C'est pour ça qu'ils écoutent, parce qu'il y a tout le Sud. Hein, il y a la Syrie, etc., etc. Donc c'est vrai que ça, on le ressent. Nous qui sommes en train d'établir tous ces contacts avec la Syrie, le Liban, on est en train de travailler sur l'Afrique, on est en train de se tourner. On a Nabil Elazan qui vient de faire une production sur la Syrie et sur le Liban. Là-bas, il y a des gens qui attendent et qui se battent pour aussi que ça existe, c'est-à-dire qu'il y ait ce rapport-là qui se crée.
Oui, j'ajouterais que le fait que les institutions européennes solides, organisées comme ça, aient du mal à s'ouvrir aux propositions, nous laisse paradoxalement un champ de liberté et nous offre la possibilité de développer des contacts qui sont des contacts basés presque personnels, basés sur des sensibilités. Ce qui fait qu'on a cette parce que quand vous travaillez avec les pays du Nord, ben on vous dit ben voilà, ça va être avec un tel, donc ça marche ou ça marche pas. Mais dans les pays où c'est pas aussi organisé, eh ben vous pouvez mieux choisir les gens avec lesquels vous allez travailler. Parfois c'est pas plus mal, c'est tout, les amener, et voilà, espérons que ça va marcher, Inch'Allah, comme on dirait.
Eh bien, merci beaucoup. Et rendez-vous demain pour une nouvelle conférence de presse avec l'Ouest solitaire. Ah, merci. Gueule.